pas que tout va bien, mais on laisse entendre que la Guadeloupe, la biodiversité en Guadeloupe, eh ben, ça va, on s'en occupe, tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. La biodiversité en Guadeloupe, il y a une véritable érosion, elle continue. On a vu pire dans le passé, si on remonte à l'époque de la colonisation, oh pardon, il faut dire l'époque de l'économie de plantation.
C'est ça.
Oui, non, c'est plus...
C'est joli,
oui,
c'est bien.
Oui, c'est mieux, c'est mieux. Il paraît que c'est mieux.
C'est vrai que le fait qu'ils aient complètement arrêté quasiment l'usage des insecticides, on observe en retour des anolies et des grenouilles. Parce qu'en plus, les bananeraies, c'est très intéressant. Parce que bon, tu es quand même sous une espèce de canopée, d'accord. Et puis ça garde l'eau pas mal. Et les grenouilles adorent, hein, nos petites îlots de... Les ouais. polyphonies.
Oui, délicieuses la nuit.
Les nuits antillaises adorent cette quantité d'eau là qui est maintenue dans les feuilles de bananeraie.
Là, je peux vous dire que c'est drôlement agréable de vous souhaiter la bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce que nous sommes dans la forêt tropicale avec la soufrière donc qui n'est pas loin. Christophe Imbert, mon réalisateur, est à 6200 km de là à Paris. Stéphane Combe est à mes côtés. Et puis à la technique, nous avons Benjamin Dagatinet et Valentin Azan. Allez, c'est parti. Vous entendez déjà toute une ambiance? Ben oui, c'est formidable. C'est la nuit, en tout cas c'est la tombée de la nuit ici en Guadeloupe. Trouver un endroit là pour se poser et vous dire quelques mots. Ouais, bah là je lève les yeux au ciel, un très bel arbre de 35 mètres, ça devrait être largement suffisant pour vous dire qu'on est dans une île de toute beauté, hein, au cœur des petites Antilles, qui est sortie du ventre de la Terre, allez quoi, il y a moins de 4 millions d'années, autrement dit la Guadeloupe est une jeunesse. Et si nous sommes en fait tous des poussières d'étoiles, on peut dire que les forêts tropicales dans lesquelles nous sommes, donc ici à Basse-Terre, avec plein d'oiseaux ici, eh ben elles sont filles des volcans et des alizés porteurs d'eau. Et l'archipel des petites Antilles, en fait, fait partie des 35 points chauds, on appelle ça des hotspots de la biodiversité dans le monde, avec un très fort taux d'endémisme. Et en Guadeloupe, alors donc vous avez des milieux très différents, hein, vous avez des forêts denses, des forêts humides, sèches, des marécageuses, des mangroves, vous avez le cocotier qui va dialoguer avec l'arbre fromager, tandis que les falaises, elles, papotent avec les récifs coralliens. Alors on va se dire, c'est très très beau hein, pour la carte postale, bien sûr c'est beau, mais c'est aussi extrêmement fragile, car sur cette île, il y aurait, on va dire, comme un léger déficit de sensibilité environnementale. Elle est malheureusement souvent sale, parce que les habitants saupoudrent joyeusement les plages, les montagnes de déchets qui eux-mêmes sont mal collectés. Le lâcher de déchets n'importe où semble être une quasi-institution. Alors vous rajoutez aussi le culte de la voiture avec 3 ou 4 véhicules par foyer dans une île aménagée pour elle, et donc on imagine que ça bouchonne avec gourmandise, 3000 chasseurs qui exercent une forte pression sur les milieux, et là bah, vous obtenez en fait un magnifique tiercé perdant. On est aussi capable d'imaginer planter un télésiège pour grimper sans effort au volcan de la Soufrière, et ceci en plein cœur du parc national. Alors si ce projet qui est complètement dément et contre nature voit le jour, demain ça veut dire que tout sera permis. Sur cette île dont certains élus, et pas tous heureusement, hein, se plaisent à porter les messages de consommation, d'étalement urbain, les messages environnementaux indispensables à la survie de cette île, eh bien ils ont quelque peine, eux, à se frayer un chemin. Alors que la naturalité, c'est le meilleur argument touristique de cette pépite qui est pleine de charme et d'atouts. Et on préfère aussi d'ailleurs agrandir le port autonome de Pointe-à-Pitre pour y faire entrer encore plus de containers en provenance de Panama. On va dire chapeau, la part belle faite à la dépendance. Et alors, malgré tout, heureusement, bah, rien n'est perdu. Et le formidable Terra Festival, le 12e du nom, c'est un festival de films d'environnement, secoue, féconde, interroge des consciences. Les femmes du Terra Festival portent haut et fort le message environnemental. Et ce sont elles, en fait, que nous venons soutenir et encourager. Et là, croyez-moi, ça bouge. Nous irons donc dans la forêt tropicale où nous sommes, à la rencontre des tortues qui pondent en ce moment. Et nous parlerons aussi de l'agriculture intensive de la banane. Je vous propose donc une émission toute en couleur sur cette belle île. Et à l'heure où je vous parle, il fait 26 degrés entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Et comme on le dit parfois avec autant d'espoir que de malice ici, qui souffre hier ne souffrira pas forcément demain.
CO2 mon amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Eh ben on va commencer presque au cœur du massif de la Soufrière, hein, Béatrice Ibéné.
En pleine forêt tropicale humide,
voilà.
Hygrophile.
Et alors là on traverse donc un,
un torrent, on est dessus. On va juste rappeler que cette soufrière, c'est donc ce massif qui va apporter de l'eau douce en fait à toute la Guadeloupe.
Tout à fait. Et on reconnaît déjà bien quelques arbres de la forêt tropicale humide.
Ouais.
Et les premiers arbres qui occupent cette forêt tropicale humide, qui sont les bois canons. Vraiment une espèce pionnière que personnellement j'apprécie énormément car elle nourrit les chauves-souris frugivores.
Ouais.
Et c'est grâce aux chauves-souris frugivores justement si ces arbres pionniers peuvent reconquérir les espaces pris à la forêt après des cyclones ou après des défrichements.
Alors je vais quand même vous présenter hein, parce que vous êtes vétérinaire, vous êtes naturaliste et vous êtes aussi la présidente de l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles. Vous êtes aussi la présidente d'honneur cette année de ce Terra Festival. Et donc on découvre cette forêt tropicale pour débuter donc ce tour portage. Béatrice Ibéné, on va quand même rappeler globalement que dans l'outre-mer, on a 80% de la biodiversité.
Exactement. Et cette biodiversité de l'archipel guadeloupéen aussi, elle est tout à fait remarquable au sein de la région des Petites Antilles, en termes de nombre d'espèces endémiques, de nombre d'espèces tout court, et puis de nombre d'espèces endémiques ramenées au nombre d'espèces totales. En termes d'endémisme, ça se vérifie pour les espèces végétales, mais également beaucoup pour les espèces animales.
Alors Alain Rousteau, je me tourne vers vous, parce que vous êtes vous aussi donc un formidable botaniste, vous êtes un universitaire, vous êtes un homme de terrain, vous aimez la forêt tropicale. Alors là, on lève les yeux, mais quand on dit au ciel, on voit pas la fin hein, de cet arbre.
Oui, il doit atteindre 30 mètres. Et celui-là, on l'appelle la comate. Et au-dessus, ce qu'on voit encore, des petites feuilles jaunes qui sont en train de se refaire là, des petites verres pâles. Ça, c'est un gligli. C'est un très grand arbre qui est spécialisé dans la... Il surcime la forêt, on appelle ça un émergent. Il surmonte tout le monde. Quoi. On l'appelle Gligli parce que probablement que les oiseaux, les petits faucons qui s'appellent Gligli viennent chez lui, viennent sur lui pour regarder le paysage.
Parce que cet arbre, il n'est pas tout seul.
Non. Eh ben non.
Comme disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est un HLM. Combien d'espèces différentes à peu près sur l'arbre là? Plus d'une dizaine.
Ça veut dire qu'il est habité par les autres, Jean-Marie Flower, donc aussi.
Oui, en fait, ce grand support qui est là depuis déjà plusieurs décennies, voire peut-être plusieurs siècles, il a été colonisé par d'autres plantes dites épiphytes qui poussent dessus. Et donc, pêle-mêle, hein, on a ici des asplundia, des ailes à mouches, on a des bois couilles, margravia, on a des philodendrons, des mousses, toutes les taches un petit peu de couleur, ce sont des lichens. Et là, c'est tout ce qu'on voit. Il y a ce qu'on ne voit pas, il y a toute la faune également. Un seul arbre, surtout s'il fait 30 mètres, du fait de son étagement et du fait qu'il filtre la lumière qui arrive au sol, de façon très efficace, propose une quantité de niches écologiques et d'habitats pour des dizaines, voire des centaines d'espèces.
Et quand tu as une plante épiphyte, comment tu arrives, comment tu mets ta graine sur un arbre pareil? Comment faire?
Eh bien, on fait passer par les guimbauds.
Alors, les guimbauds, c'est...
Les chauves-souris.
Ah ben voilà.
Frugivores.
Alors, les chauves-souris frugivores, en fait, qui disséminent...
Que vous aimez, oui.
Qui disséminent énormément, parce qu'elles sont très utiles. Hein. Ouais. Il n'y a pas que le fait qu'elles soient très intéressantes, fascinantes, qu'elles aient une très grande socialité, qui ressemble beaucoup à la nôtre, d'ailleurs.
C'est quoi leur méthode aux chauves-souris, là, pour disséminer?
En fait, elles avalent les fruits avec les graines. D'accord. Les graines restent intactes suivant tout le transit intestinal. Même pour certaines graines et certaines espèces, semble-t-il, il y a une potentialisation de leur pouvoir de germination à l'intérieur du tube digestif de la chauve-souris. Et la chauve-souris, dans ses fesses, quand elle va tourner, elle va... tout à fait, sur l'arbre, et avec tout ce qui va avec pour coller la graine. Parce que c'est bien le problème des plantes épiphytes.
Ah, il y a le scotch, il y a la colle avec.
En quelque sorte, voilà. C'est bien le problème des plantes épiphytes, c'est rester collé sur un tronc.
Cet arbre qui doit avoir dans les 200-300 ans, peut-être un peu plus, il a commencé à pousser au moment où l'homme a commencé à émettre des gaz à effet de serre à partir des ressources fossiles. Et il se trouve que cette classe d'âge parmi les arbres, de par le monde entier, c'est sans doute l'une des plus menacées. Parce que leur génome a été habitué à un certain type de climat qui est en train de changer à vitesse grand V à cause des émissions anthropiques. Donc c'est précisément dans cette forêt qui est relativement préservée, qui joue vraiment un rôle de tampon microclimatique, que ce genre de grands arbres est le mieux préservé. C'est pour ça qu'il faut les surveiller de très très près au cours de ce siècle.
Écoutez, c'est Amélie qui parle sur une vieille biguine si loin dans sa mémoire. La, la, la. Si où est mémoire? Si où aimez-moi, si où aimez-moi, pas fais-moi mal. serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Elle se souvient, même en dehors de l'école, fallait pas parler créole, pas les créoles, dégager les mamans, c'était la loi. Mais en secret, à la fille du gouverneur, elle apprenait des phrases par cœur. Amélie rit du système, c'est sa philosophie. Amélie rit du système.
Amélie, c'est philosophie.
Amélie se fout du système.
Amélie, c'est fou quand elle rit.
Elle se souvient des avions latécoères, quand elle attendait son père, qui était parti derrière l'horizon pour une raison, et puis pour rien, quand elle mettait de couvert, elle voyait pleurer sa mère. Amélie, quand elle dit moins là, c'est pour de bon. Amélie, tiens bien debout. Amélie,
tiens bien debout.
Amélie, tiens bien debout. Amélie, elle s'assoit aussi, lointaine dans sa berceuse, souveraine et rêveuse. Amélie part pour un bal, longtemps, longtemps. Elle entend si vous aimez-moi, si vous aimez-moi,
si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, ok, vie.
Elle se souvient d'un amour cheveux clairs, fils d'un grand propriétaire, maillé bec et yo, oh, j'en vois ça, c'est comme la loi. Les yeux fermés, elle raconte comme c'était fort. Et ce qui est plus fort encore, c'est qu'Amélie donne tout l'amour qu'elle a perdu. Amélie baille l'amour. Amélie baille l'amour. Amélie a un rêve aussi, elle dit que blanc et noir, c'est une chance, un espoir. Amélie Colbert qui danse, il faut la voir. Amélie dit, il y a tant de choses à faire. Histoire en nous, c'est en trésor. On joue l'autre qu'elle plairait. Amélie jure qu'elle entend notre île chanter, chanter.
Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort.
Denis Chessou sur France Inter.
Alors toujours dans ces Hauts-de Mon Amour, presque en direct de la Guadeloupe, dans ce parc national donc de la Guadeloupe. Là, on est dans cette forêt tropicale. La Soufrière n'est pas exactement à côté. On est à combien à peu près?
Oh, je ne sais pas. Vol d'oiseau, je ne sais pas.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être 25 km. Bon, on regarde, ça fume pas, donc c'est déjà pas mal. Alors Jean-François Bernard, vous êtes aussi donc un passionné alors des fougères, de la forêt tropicale, vous êtes un botaniste et vous êtes le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette forêt tropicale, on a un peu envie de savoir comment ça marche, parce que tout est démesuré ici.
Ça fait partie de ces forêts qui sont très qu'on ne trouve plus en Europe, des forêts qui n'ont jamais été modifiées par l'homme, plus que l'effet de quelques tempêtes naturelles. Comment elles fonctionnent? Alors c'est très complexe, en même temps c'est facile à comprendre. Il y a les grands arbres que l'on voit ici, là, qui sont les grands structurants de la forêt. Et si on regarde bien dessous, eh bien, il y a leurs enfants, leurs petits, qui petit à petit essayent de... Alors là, on n'en voit pas beaucoup. Voilà, on en voit ici quelques heures, là-bas. Soit ces petits poussent à travers les grands arbres, soit ils poussent beaucoup plus vite lorsqu'il y a une ouverture naturelle, ce qu'on appelle un chablis, c'est-à-dire un arbre qui tombe naturellement. Et là, il y a une relan de dynamique, ça va de plus en plus vite, les arbres poussent beaucoup plus vite. Et il y a une espèce de renouvellement constant à travers des phénomènes qui semblent accidentels, la chute d'un arbre, mais qui en fait fait partie complètement du fonctionnement de la forêt. Avec en plus ici, on a le phénomène des cyclones. Les cyclones expliquent en partie pourquoi on a si grande densité de tiges ici. Les forêts sont très denses. On parle de forêts denses, effectivement, c'est pas un vain mot, c'est vraiment des forêts très très denses. Et parce que le cyclone a une action très forte, il a probablement participé à la sélection de toutes les espèces qui sont ici. C'est pour ça qu'en fait, on peut aussi le voir non pas comme un effet négatif. Ouais. Par contre, lorsque la forêt a été largement amoindrie par l'homme, à ce moment-là, le cyclone a des effets beaucoup plus dévastateurs. Les arbres tombent, on l'a vu à l'occasion de Hugo, il y a quelques années, les arbres tombent comme des allumettes. Et là, c'est beaucoup plus dur. Les reconstitutions forestières vers un état de, lorsqu'on coupe de la forêt, par exemple, sont très longs. On parle de entre 500 ans, autour de 500 ans, à un millénaire. C'est énorme. À un millénaire. D'où l'importance de comprendre qu'il ne faut pas couper les forêts naturelles qui restent. Ouais. C'est perdu à jamais.
Alors Alain Rousteau, aujourd'hui, déforestation, qu'est-ce que ça donne ici? On déforeste beaucoup dans cette forêt tropicale ou
pas? Elle n'affecte pas beaucoup la forêt dense humide du parc national, heureusement.
Oui.
En revanche, à l'échelle du département, c'est-à-dire de Guadeloupe, Basse-Terre et Grande-Terre réunies, compte tenu de l'exiguïté du territoire, on perd quand même quelque chose comme 200 terrains de football par année. Quoi.
On va rappeler quand même les dimensions, 1300 ou 1400 km² pour la Guadeloupe.
Voilà, 1600 tout compris.
Et, avec les autres îles.
Et du coup, voilà, 200 hectares c'est beaucoup parce qu'il n'y a pas 1600 km de forêt, bien sûr.
On le fait pour quoi? Donc terrain agricole, pour urbaniser?
Bah, essentiellement c'est ça, c'est pour des raisons agricoles ou pour des raisons de construction des maisons. Quoi. Tout simplement, urbanisation, puis voilà, on fait des jolis terrains.
Alors on entendait pas mal la grive à padrone, qui est une espèce d'oiseau endémique des petites Antilles, qui vient de disparaître malheureusement de Sainte-Lucie, qui est classée espèce menacée par l'UICN, l'Union mondiale pour la nature, et qui est classée vulnérable, donc menacée à l'échelle mondiale, et également à l'échelle mondiale en Guadeloupe, mais qui est toujours chassée légalement. Alors on a obtenu la suspension de la chasse pour cette espèce au tribunal cette année, mais il y aura sûrement un combat à refaire l'année prochaine, parce que malheureusement l'État français continue à autoriser la chasse de cette espèce, alors qu'elle n'est pas chassée à la Dominique et qu'elle n'est pas chassée à Montserrat.
C'est ça, ça peut être une merveilleuse dérogation pour faire plaisir aux chasseurs. Quoi. En gros, ça ne vaut pas ça. Donc.
Oui, mais dont le prix à payer risque d'être très fort. C'est-à-dire qu'on risque... Déjà, on a une responsabilité mondiale très forte hein, pour une espèce qui n'est présente que sur 3 petites îles au monde, donc quand même. Et puis, on risque de la perdre, comme on a perdu jadis nos perroquets, Amazon et Ara. Qui étaient aussi des espèces endémiques. Donc, quand on perd une espèce endémique, on la perd pour toujours. C'est vrai qu'en tant que naturaliste, on est un petit peu inquiet quand on voit tous les moyens financiers, certes, mais surtout humains, qui peuvent être donnés sur un projet d'envergure, hein, qui est le projet de réintroduction des lamantins, qui est une espèce, certes, qui est menacée au niveau mondial, mais en tout cas pour laquelle la part de la Guadeloupe est quasiment nulle dans sa survie. Alors que nos espèces endémiques, nous avons 100% notre part de responsabilité pour leur survie.
Allez, on va rejoindre donc le torrent du Bras David. Voilà.
C'est de la famille du poivre. Il y a beaucoup d'espèces de la famille. Ça, c'était de la famille du poivre. Et ça, c'est toute petite, là, c'est de la famille du poivre aussi.
Ça, c'est du poivre.
Oui, c'est du poivre. Le poivre ressemble beaucoup à cette espèce-là, les feuilles de poivre, du vrai poivre.
Allez, poursuite de la balade, tout en reportage dans ce haut de mon amour. Alors, on va parler quand même aussi un peu des sujets qui fâchent. Est-ce qu'on est véritablement sur une île, on va dire durable, on va dire soutenable? Parce que c'est quand même ça qui est derrière. On n'a pas toujours ce sentiment-là, Jean-François Bernard.
Le bilan global, tous les indicateurs qu'on observe nous montrent que non, nous ne sommes pas dans une démarche de développement durable. Même si c'est
déjà, vous êtes 420 000, on le rappelle, à peu près, donc habitants. Et beaucoup d'habitants, évidemment, ne peuvent pas vivre dans la montagne, donc il y a une pression quand même assez forte.
Oui, bien sûr. Et en même temps, ça explique que de toute façon, ce n'est pas facile d'avoir une démarche de développement durable dans ces circonstances. Ce n'est pas évident du tout. Je ne dirais pas que l'on cache, mais on occulte certains problèmes. Et on ne dit pas que tout va bien, mais on laisse entendre que finalement, bon an, mal an, on donne l'impression que finalement tout va bien, que les choses sont gérées, que la Guadeloupe, la biodiversité en Guadeloupe, eh ben, ça va, on s'en occupe, tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. La biodiversité en Guadeloupe, il y a une véritable érosion, elle continue. On a vu pire dans le passé. Si on remonte à l'époque de la colonisation, oh pardon, non, il faut dire l'époque de l'économie de plantation.
C'est ça.
Oui, non, c'est plus...
C'est joli,
oui,
c'est bien.
Oui, c'est mieux, il paraît que c'est mieux. Donc, à cette époque-là, c'était catastrophique. On a brûlé des quantités de forêts extraordinaires. Les chaudières fonctionnaient avec du bois. Donc, l'équipement, c'est bien pour la population en termes de confort de vie, mais ça a aussi un coût lorsque c'est... je ne dirais pas que c'est pas bien vu, parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, dans des pays aussi petits, où il y a une exiguïté, où tous les espaces sont collés les uns aux autres, les vocations se bousculent, on ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de dégâts. C'est pas un problème de société, la perte de biodiversité. C'est un gros problème de civilisation. C'est un changement de paradigme, c'est énorme, et il faut absolument que on est dans un problème énorme. C'est normal qu'on n'y arrive pas, mais par contre, il faut le dire de façon à arriver au mieux des possibilités qu'on a aujourd'hui.
Alors Jean-Marie Flower, je me tourne vers vous. Vous avez un très joli nom, Jean-Marie Flower. Voilà, les prédestinés, bien sûr. Écologue. Donc, quelle est aussi votre vision? Parce que je sais que vous travaillez aussi avec des jeunes, avec des collégiens pour leur faire prendre conscience de tout ça. Et donc, à la fois de cette beauté, on rentre par la beauté, on rentre par l'émotion, on le sait. Puis après, on arrive sur la connaissance. Mais comment fait-on?
Eh bien, on passe par un petit peu de mathématiques, toujours en partant du concret. Ce qui est durable, c'est un équilibre entre une capacité de charge, une biocapacité d'un milieu, donc qui peut être l'archipel, qui peut être l'arc des petites Antilles, qui peut être la planète, et une empreinte écologique. Et cette empreinte écologique, c'est très intéressant de savoir comment elle a évolué au cours du temps, depuis les Kalinas, les premiers habitants dont Jean-François parlait, qui utilisaient les gommiers blancs pour voyager d'île en île. Eh bien, à l'époque des Kalinas, la Guadeloupe avait toujours la même taille, et il y avait en gros 1500 à 2000 Kalinas, un habitant au kilomètre carré. En 2015, nous sommes 250 habitants au kilomètre carré. Donc ça ne peut évidemment pas avoir le même impact. Par exemple, si on devait nourrir, les Kalinas se nourrissaient exclusivement à partir de ce qu'ils trouvaient dans un rayon de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres grand maximum. 80% de l'alimentation du Guadeloupéen moyen vient de l'extérieur. Et c'est à la fois quelque chose qui est regrettable pour l'agriculture locale. On dit « Ah, il y a un potentiel de développement, etc. » Mais ce qu'il faut voir, c'est que les terres sur lesquelles pourrait se développer l'agriculture, c'est en même temps, c'est de la forêt, ce sont des écosystèmes qui ont mis des milliers d'années à se mettre en place. Donc, quelque part, le fait que nous soyons 400 000 aujourd'hui, pour être vraiment dans le développement durable, il faudrait presque qu'on accepte même plus de se nourrir, ou très peu, localement, et qu'on importe notre nourriture complètement de l'extérieur pour préserver les écosystèmes d'ici. Ce sont des arbitrages qui sont très compliqués à faire sur le court terme. Et le plus simple, c'est de se dire qu'il faut prendre un chemin, qu'il faut trouver une feuille de route pour réduire, allez, au hasard, de 5% notre empreinte écologique par an. Par exemple, sur l'alimentation, oser taxer, par exemple, au poids de carbone, les aliments, les voitures, et dicter des normes qui soit de plus en plus draconienne pour faire baisser le poids des voitures et donc la puissance appelée sur les routes. Marier à la fois une attitude qui soit écologiquement rationnelle, on réduit les ressources, et économiquement rationnelle parce qu'on dépense moins, on préserve également son pouvoir d'achat.
Tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac. Mamouya ka filé fait zandolé ka coupé quand mamouya ka filé fait zandolé ka coupé quand mamouya ka filé fait zandolé ka coupé quand mamouya ka filé fait zandolé ka coupé.
Alors toujours sur France Inter, CO2 Mon Amour, donc vous l'avez compris ici en Guadeloupe, donc dans ce parc national de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous bluffe, vous les uns les autres, dans cette forêt tropicale? Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous émeut, Jean-François Bernard, ici
Déjà, il y a une chose, c'est qu'on ne sort jamais, bon, depuis des années que je promène en forêt, je ne suis jamais sorti en forêt savoir quelque chose de nouveau. Je découvre chaque fois des organisations écologiques, des plantes nouvelles, des choses, et souvent des choses extraordinaires, des astuces de la forêt, des organisations entre les insectes et les plantes. On découvre toujours quelque chose. La beauté peut se trouver partout. Mais cette certitude que, quelle que soit la petite promenade qu'on va faire, on va trouver des choses originales et qu'on n'a jamais vues, découvrir des morceaux de fonctionnement de la forêt, ça c'est vraiment très 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 intéressant et c'est très, j'allais dire, c'est jouissif.
Et bien moi, c'est à quel point ça peut être une allégorie, une métaphore du développement, ou plutôt des équilibres durables. Parce que tout ce qu'on voit autour de nous, toute cette verdure, toutes ces plantes, en gros, c'est la moitié de la biodiversité. Ah, que la moitié? Comment? L'autre moitié, c'est quoi? L'autre moitié, ce sont des bactéries dans le sol. Cet ensemble plantes plus bactéries, ça fait 999 millièmes du carbone qui est présent ici. Et nous, les animaux, nous, les êtres humains, on est 1 pour 1000. Et pourtant, ces 999 millièmes, eh bien, ils fonctionnent exclusivement à partir d'énergie renouvelable. Le soleil, transformé en différentes catégories d'énergie chimique. Et ça recycle à 100%.
On a marché ils n'ont pas un problème de décharge comme vous avez à Pointe-à-Pitre, là, c'est sûr.
Tout déchet est une ressource. Ouais. C'est ce vers quoi devraient tendre nos sociétés humaines, qu'elles soient insulaires ou même au-delà, en Europe et ailleurs dans le monde. Et en particulier, les plantes et les arbres sont vraiment des modèles d'organisation dont il faut s'inspirer. Moi, là où vous allez voir des feuilles, moi je vois des panneaux photovoltaïques.
Bien sûr.
Ultra sophistiqués parce que auto-réparables. En plus, qui sont capables de fonctionner avec 1% seulement de la lumière qui va arriver au sol. Ouais. On a ici des plantes de sous-bois qui sont capables de fonctionner avec un rendement qui est seulement diminué d'un facteur 10, alors que la lumière est diminuée d'un facteur 100. Aucun panneau solaire n'est capable de faire ça. Donc c'est en prenant en compte toute cette organisation-là que ça me sert, disons, de terrain de...
Votre réflexion.
De réflexion, d'inspiration, ouais. Pour essayer de voir à quoi pourraient ressembler nos habitats, nos façons de bouger. Le fait qu'on a vu tout à l'heure un seul gros arbre, c'est un HLM, où finalement il y a à peu près tout au même endroit, et tout ce dont on a besoin, c'est aussi très inspirant pour que, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on puisse, nous, êtres humains, avoir besoin de beaucoup moins de mobilité, ou plutôt de faire bouger plutôt les idées que que tout ce qui est pesant, d'habiter, de manger différemment, etc., etc.
Allez, poursuite de la balade, tout en reportage dans ce haut de mon amour.
Et puis le soleil levé, jusqu'à ta nuit couchée, tout ça pète la radio, bien Dieu tout au cavaillot. En caisse masse n'est qu'étouffé, au profit des étrangers, haïtiens guadeloupéens, c'est yo qui prend la main, oh, depuis le soleil levé, jusqu'à ta la nuit couchée, tout ça on pétonne la radio, tiens tout au cavaillo, en caisse masse n'est qu'étouffé, au profit des étrangers, la bonne métropolitaine, c'est yo qui prend la main. Aujourd'hui c'est grâce à lui, si Paul Flan n'a pas péri, chaque semaine a offert deux heures musique du pays. Aujourd'hui c'est grâce à lui, si Paul Flan n'a pas péri, chaque semaine a offert deux heures musique du pays. We'll be right back. aujourd'hui c'est grâce à lui. Si musique nous pas péri, passe pour lui vraiment pour lui. Si les kérébats et la vie rouge, aujourd'hui c'est grâce à lui. Si folklore nous pas péri, passe pour lui vraiment pour lui. Si les kérébats et la vie.
Inter, Denis Chessou.
Changement de décor, toujours donc à la Guadeloupe dans ces Hauts-de-Mon Amour. Et là, c'est la nuit. Il est un peu plus de 22h. Et alors, on va rejoindre Sophie Bédel, qui est une des organismes. Oula, Sophie de Cap Natirel et qui a à la main sa lampe rouge, en train de regarder les traces de tortues, car nous sommes ici, en Guadeloupe, sur un site de tortues.
Alors, en fait, là, on patrouille avec une lampe rouge, qui est une lampe que les tortues décèlent moins qu'une lampe normale. Et en fait, on patrouille la plage à la recherche des tortues en ponte. Et là, la trace qu'on a sous les yeux, en fait, c'est la trace de retour à la mer qu'une tortue a fait il y a à peu près une demi-heure.
Ouais.
Donc en fait, elle est montée sur la plage, elle n'a pas trouvé son endroit, elle a fait demi-tour. Et en fait, là, ce soir, l'équipe est assez excitée parce que c'est la première tortue qu'on s'apprête à voir pour cette saison. Donc c'est toujours un moment assez important.
D'accord. Donc là, il s'agit, parce qu'on là, on voit une très belle trace, c'est une tortue lutte, ça.
C'est ça. C'est, en fait, on est sur un des rares sites de ponte en Guadeloupe où il y a trois espèces qui pondent entre mars et novembre. Et c'est les luttes qui ouvrent le balai. Les plus grosses, les plus impressionnantes.
Oui.
Et si on a un peu de chance, on va
peut-être
voir
l'avoir
ça ce soir.
Ouais, très très bien. Alors, comment font-elles? Est-ce qu'elles reviennent sur les lieux de ponte qui sont toujours les mêmes? Ou bien elles sont fidèles ou infidèles aux lieux de ponte?
Alors en fait, ça dépend des espèces. Selon les espèces, elles vont être plus ou moins fidèles. La tortue lutte, moi je l'appelle souvent la globe nageuse. C'est la tortue qui voyage le plus vite, le plus loin. Et
elle va jusqu'en Afrique ou en Europe, hein, celle-là.
Elle en est capable. Et même à l'échelle de la Caraïbe, elle est capable de faire une ponte sur la plage où nous nous trouvons ce soir, d'aller faire la suivante dans 8 jours en Dominique ou en Martinique, et de revenir par ici pour la ponte d'après.
Elle va en faire combien, en fait, des pontes en moyenne?
Alors, elle peut, en général, c'est 4 à 6, mais il y a des records à 12. Donc, l'effort que ça représente pour elle de monter 12 fois sur la plage, de faire 12 nids, c'est quelque chose de considérable.
Elle n'est pas exactement légère, elle peut faire jusqu'à quoi, 400, 500 kilos celle-là ou...
Oui, les tortues luttes qu'on a en Guadeloupe sont un peu plus petites que celles qu'on peut avoir en Guyane ou au Gabon. Mais c'est quand même des tortues assez impressionnantes qui atteignent 1m60 et 400 kilos.
Bon, alors moi je suis une tortue. J'ai besoin d'aller creuser à quoi, 50, 60, 1 mètre de profondeur, c'est...
Alors à nouveau, on va avoir des nids très profonds pour les tortues luttes, jusqu'à 1 mètre. Et puis après, plus la tortue est petite, plus elle va pondre ses œufs vers la surface. C'est une question de longueur des pattes, tout simplement. Par contre, elle fait un petit coussin de sable qu'elle tasse suffisamment pour que les œufs soient protégés et pas trop pour que les œufs puissent respirer à travers le sable. Parce que si les tortues viennent déposer leurs œufs à terre, c'est parce que les bébés tortues respirent à travers la coquille. Donc c'est très important que le tassage soit juste ce qu'il faut.
J'ai une chance sur combien? Je suis une tortue. J'ai une incubation, quoi. 2 mois à peu près, 3 mois, c'est à peu près ça le...
C'est ça. On dit en généralement 2 mois. C'est 60 jours, plus ou moins 10, en fonction de la couleur du sable, de l'endroit où elle pond. Et c'est vrai que c'est 60 jours pendant lesquels il faut que la ponte soit protégée des braconniers, des prédateurs, de la marée. Donc c'est vrai que pour une tortue, c'est toute une stratégie d'aller mettre son nid à un certain endroit pour les protéger des différentes menaces.
Alors ça, c'est le premier obstacle. Après, deuxième obstacle, je sors. Bon, et on connaît ces images où on voit effectivement ces toutes petites tortues qui sont en train de filer vers la mer. Alors, c'est une chose intéressante. Est-ce que déjà là, le bébé tortue va s'imprégner du lieu?
Alors, c'est ce qu'on pense, en fait. Hein. On pense que la migration qui leur permettra de revenir d'ici une vingtaine d'années sur leur site de naissance...
Il faut attendre 20 ans. Hein.
C'est ça, au moins. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps. Ça fait 25 ans qu'elles sont protégées, mais avant que les effectifs augmentent, il faut beaucoup de temps. Mais oui, on pense que c'est pendant l'incubation et aussi pendant la période de sortie du nid jusqu'à la mer que les tortues enregistrent, entre guillemets, un certain nombre de paramètres qui vont leur permettre de revenir jusque-là. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire très attention quand les tortillons sortent du nid à ne pas les manipuler, parce qu'un peu comme pour un petit oiseau pour qui on dit faut pas le toucher pour pas interférer, on pourrait causer des dégâts en voulant aider les tortillons à rejoindre la mer.
Bon, alors j'échappe aux braconniers, j'échappe aux gens qui font n'importe quoi, j'échappe donc aux oiseaux, j'arrive à la mer, c'est pas la fin de mon histoire là.
C'est là que tout commence.
Oui.
Il va falloir échapper aux prédateurs qui attendent dans l'eau, il va falloir échapper aux prédateurs qui sont un peu plus loin, nager très loin, survivre aux obstacles qu'il y a en mer, se trouver un abri, et puis ensuite elles vont dériver pendant quelques années, qu'on appelle les années perdues, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe.
Hop là. Bienvenue la mer, à nos pieds.
Est-ce que ça dérange si on avance en
même
temps ?
Pas du tout.
Nous sommes sur... refait un U.
Oui, elle est repartie là. Effectivement, elle a tourné.
Ça veut dire que c'est bon signe.
Oui.
Ça veut dire qu'elle est déterminée.
Elle est persévérante.
Je vais aller voir, en fait, je pense
pas.
Qu'elle est là.
Ouais, je bouge pas. Oui, dis donc, la voile. C'est incroyable. Quelle est ma chance de survie en définitive sur, je sais pas, on va dire quoi, 1000?
Alors en fait, il y a un chiffre qui tourne dans le milieu des amateurs de tortues marines qui dit qu'il faut à peu près 1000 œufs pour faire une tortue adulte. Donc ça représente quand même une dizaine de ponces puisqu'on considère qu'il y a 100 œufs par nid. Cela dit, ce chiffre-là, c'est un chiffre qui a été établi à un moment où il n'y avait pas autant de menaces liées à l'homme qui pesait sur les tortues. Aujourd'hui, c'est probablement encore beaucoup plus d'œufs qu'il faut pour qu'il y ait une tortue adulte, puisqu'il y a un grand nombre d'obstacles, les captures accidentelles dans les filets, la destruction des habitats, et il est probable qu'il faille beaucoup plus d'œufs pour avoir une tortue adulte.
Et cette histoire dure depuis 150 millions d'années.
C'est ça. C'est des animaux qui ont survécu à un grand nombre d'extinctions et qui ont frôlé l'extinction il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est des animaux qui sont assez adaptables dans leur archaïsme et on espère que grâce à tous les travaux de protection qu'on entreprend, qu'elles survivent à l'extinction qui est en train de survenir. Denis ?
Ouais.
Il y en a une qui vient de sortir là. Donc,
attendez, où c'est sur la gauche là ?
Elle est juste contre les cailloux. Alors c'est sûr que c'est difficile de nuit de distinguer une tortue d'un gros caillou. Mais non,
ça bouge là, ça y est.
Elle est en train de se caler.
Oula.
En fait. Elle va choisir l'endroit où elle va commencer à balayer. Donc elle utilise ses pattes avant pour balayer.
Ouais.
Elle va se faire une place nette en fait. Et puis une fois qu'elle aura fini de balayer, elle va commencer à creuser avec ses pattes arrière. Et là, elle va faire un cylindre presque parfait.
Alors attendez, parce que là, comme marque, qu'est-ce que c'est là ? C'est une lutte ? C'est une... c'est plus petite, c'est une imbriquée ?
Au vu de la taille et de l'enfoncement...
Je suis loin, je vois pas. Mais...
Au vu de la taille et de l'enfoncement dans le sable, c'est un animal lourd et grand.
Ah oui ?
Et tout porte à croire que ce soit une tortue lutte. En plus, c'est la saison.
D'accord. Donc c'est celle-là que vous pistez depuis, allez, 2-3 jours ?
Alors en fait, tant qu'elle est en train de bouger comme elle est en train de le faire,
faut pas le faire. On bouge pas. Nous, on bouge pas.
Il faut pas bouger.
D'accord.
Tant qu'on ne bouge pas, on ne représente pas de danger pour elle. Là où on va commencer à s'approcher, c'est quand on suppose qu'elle est en train de commencer à pondre ses œufs, parce que c'est le moment où nous, on va pouvoir intervenir pour le suivi scientifique qu'on fait.
Oui.
Donc du moment où elle est en train de pondre ses œufs, alors il peut se passer, nous on table sur 45 minutes, moins d'une heure en tout cas. C'est ça qui nous fait, qui rythme nos allers-retours sur la plage.
Ouais.
Pour être sûr de n'en louper aucune, on considère que c'est 45 minutes en moyenne, mais les tortues luttes, elles prennent un peu plus de temps quand même.
Bon, mais ça veut dire qu'en une heure, elles ont bouclé le cycle entre monter, creuser, pondre et repartir à la mer ?
Si les œufs sont en bon état, a priori, ils ne vont pas se faire déterrer. Si jamais il y en a un ou deux de cassés, là, ça crée une odeur. Et là, il y a tous les prédateurs qui peuvent intervenir, les crabes, les raccoons... Et tous les animaux qui vivent aux abords des plages.
Et alors, on a une température, il fait quoi, 25-26 degrés là ?
Oui, quelque chose comme ça. On a les alizés qui nous rafraîchissent.
Ouais.
Mais on est autour de 25 degrés en pleine nuit.
Ouais, avec la soufrière au-dessus de notre tête, qui n'est pas très loin.
Non, elle est directement en face de
ouais,
nous.
C'est ça.
CO2, mon amour. Sur France Inter.
Je demande si vous êtes. Et en plus, allez, la jeune qui passe
chaîne anglaise. Mettez la reine à demi-chaîne anglaise. Prenez la même balle, fusez pour la promenade allée. Mettez-moi la reine au rond, c'est bon. La crue dans le bassin des poignets, les huit, poussez-moi dans le cerf. Soignez la reine à des poignets dans mes nids. Viens, la prison dans le sang, restez là, vous soignez vos dames.
Denis Chessou.
Oh, je vais essayer de ne pas déraper sur une banane là, qui est à terre. Et je vais rejoindre Béatrice Ibéné, notre vétérinaire préféré, voilà. Donc, toujours CO2 Mon Amour en Guadeloupe, sur France Inter. Et ben, on arrive ici dans cette immense bananeraie avec la mer face à nous. On est en fait dans le sud de la Guadeloupe, on est au sud de Basse-Terre. C'est une exportation donc extrêmement importante pour la Guadeloupe, aussi pour la Martinique, comme la canne à sucre, et évidemment on connaît le problème du chlordécone. Alors le chlordécone, on va le rappeler, donc c'était un insecticide qui était là pour lutter contre le charançon, et puis à côté de ça, on a aussi utilisé de façon assez violente, c'est-à-dire par épandage, pendant de très nombreuses années, des fongicides. Là, c'était pour donc combattre des champignons. On le sait, c'est un perturbateur endocrinien, alors c'est aussi d'ailleurs cancérigène. On a vu que des cancers de la prostate ont explosé aussi sur cette île. Où en est-on aujourd'hui? Parce qu'on est sur quand même un monstre chimique avec ce chlordécone.
Oui, tout à fait. Bon, le chlordécone n'est plus utilisé hein, depuis pas mal d'années, mais le problème, c'est que c'est une molécule extrêmement rémanente, comme les autres organochlorés qu'on trouve aussi hein, en bananeraie et ailleurs en Guadeloupe. Ce sont des molécules extrêmement rémanentes, et donc les sols, d'abord, sont contaminés pour très, très longtemps. Ça va durer. Selon la nature des sols, on estime que la contamination est pour 100 à 600 ans.
Oui. Voilà. Ça laisse de la marge.
Et il n'y a pas que les sols qui sont contaminés, parce qu'on comprend bien que les sols contaminés, ils vont aussi contaminer l'eau, donc ils vont aussi contaminer les animaux qui boivent cette eau. Hein. C'est le cas par exemple de la grive à pigeons, qui boit beaucoup au sol et qui mange beaucoup de petits insectes qui sont dans le sol. Ce chlordécone, il continue de polluer également les nappes phréatiques, il continue de polluer les rivières, et il finit par se retrouver, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, il se retrouve en mer. Il ne reste pas, comme on pensait, dans la terre, mais il est lessivé aussi et il finit par se retrouver aussi en mer puisqu'il était en rivière, dans les organismes aussi aquatiques, notamment les oiseaux qu'on ne peut plus consommer dans cette région.
Ce sont les crevettes.
Les crevettes d'eau douce qu'on ne peut plus consommer dans cette région à cause de leur contamination extrême par le chlordécone, puisque les oiseaux concentrent le chlordécone, mais même le bioamplifie, hein, et finit par se retrouver en mer où il contamine encore les poissons. Côtiers, certains poissons.
On va
côtiers.
Même jusqu'au lait maternel. Hein. On a fait comme des tests.
Après, tout le long de la chaîne alimentaire, il y a quelques animaux et puis il y a accessoirement l'homme aussi. Oui. Le chlordécone est une molécule lipophile, et donc on retrouve effectivement dans certains tissus graisseux.
Alors vous avez créé quand même le collectif contre l'épandage aérien de pesticides en Guadeloupe, et ça a bénéficié à tout le monde parce que vous avez quand même réussi à faire passer cette affaire-là devant le Conseil d'État.
Oui, alors en fait, c'est une lutte qui a duré quasiment 3 ans, qui a commencé en Guadeloupe, puisque nous avons attaqué effectivement les arrêtés préfectoraux de dérogation pour permettre qui permettaient les épandages aériens de fongicides. Nous, c'est vrai que notre point d'entrée, c'était quand même la biodiversité, puisque ces milieux de bananeraie sont des milieux extrêmement attractifs. Ils servaient pour certaines espèces un peu de piège chimique, notamment les grenouilles, les chauves-souris qui viennent se nourrir sur les régimes de bananes ou sur les fleurs, puisque la chauve-souris est l'espèce au départ naturelle, et le pollinisateur naturel des bananiers. Voilà, donc ici les bananiers sont stériles, mais les fleurs ont encore un nectar extrêmement attractif et intéressant pour les chauves-souris. Donc nous, c'est vrai que notre approche par rapport à l'épandage aérien, il a d'abord été par rapport à ces animaux qui fréquentent les bananeraies. On a donc lutté contre ces dérogations sur des aspects de santé publique et de santé de l'environnement, de protection de la biodiversité. Donc on a gagné systématiquement et on a toujours obtenu des suspensions, mais l'État français faisait systématiquement
opposition,
appel. Ils n'ont jamais eu gain de cause. Donc finalement, pendant un an et demi, grâce à ces actions en justice, on a pu ne plus avoir en fait d'épandage aérien en Guadeloupe, ce qui a été une bonne chose parce que les planteurs ont dû s'adapter et ils ont dû essayer les feuillages manuels de façon plus rigoureuse.
Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire ils ont évolué,
ils se sont adaptés très,
très
vite, ils se sont adaptés très rapidement.
En termes d'image et aussi en termes de santé publique.
Tout à fait, et en Guadeloupe en tout cas, ils ont très vite compris que nos arguments étaient quand même assez solides et qu'on risquait d'arriver vraiment jusqu'au bout. Et donc, sans attendre les résultats définitifs, ils se sont adaptés et ils sont passés à l'effeuillage manuel, c'est-à-dire qu'avec des cannes, des sécateurs télescopiques, en fait, on coupe les... Tu vois, ici, là, tu as des feuilles qui sont atteintes, du champignon. On fait un effeuillage chirurgical, donc à la base, et ensuite, on couche les feuilles au sol. Et en fait, on s'est rendu compte que cet effeuillage, il est plus efficace que l'épandage aérien, finalement, pour lutter contre les champignons.
Ils avaient un meilleur rendement, après.
Alors, par la suite, finalement, sans épandage aérien du tout, depuis 2 ans et demi, ils ont atteint les productions qu'ils n'avaient pas atteint depuis 10-15 ans, je crois bien. Et ils ont effectivement une très bonne production. Et puis surtout, ça a responsabilisé finalement les planteurs locaux. Parce que l'avion, c'était un peu, l'avion passe, va épandre. Donc ça rendait en fait les planteurs moins responsables. Là, ils doivent s'occuper de leur parcelle et ils doivent faire de l'effeuillage. Et alors ensuite, malgré toutes ces victoires qu'on a obtenues localement, il s'est trouvé que le ministère a sorti un arrêté ministériel donnant encore droit à des dérogations, mais plus facilement. Alors, comment en fait on a obtenu ces arrêts avec les anciens textes? Le ministère a voulu sortir un texte qui était beaucoup moins protecteur, plus laxiste, afin de permettre de reprendre des arrêtés préfectoraux aux Antilles. Alors là, on a attaqué. Donc c'est vrai que là, nous avons fait une attaque d'un arrêté ministériel, donc à l'échelle nationale, au niveau du Conseil d'État, et nous sommes allés nous-mêmes défendre, et là on a gagné, donc on a eu la suspension de cet arrêté ministériel sur toute la France. Donc c'est vrai que c'est quand même les Antilles qui avaient le plus d'épandage aérien, mais néanmoins c'est vrai qu'on a obtenu on a demandé la suspension pour toutes les cultures, et du coup le ministère a dû sortir un autre arrêté ministériel, puisque il a vu qu'il y a une suspension, mais que son arrêté allait être annulé. Donc, il y a un deuxième arrêté ministériel qui, là, a exclu la banane et le maïs et qui a durci énormément les conditions, quand même, d'épandage sur les autres cultures, et surtout qui va conduire à la fin de l'épandage aérien total, en fait, définitif, sur toute la France, pour toutes les cultures, fin 2015, donc à la fin de l'année, là.
Alors, il y a eu un autre rapport aussi qui est très intéressant, c'est de dire que en fait, cette île-là ne devrait plus du tout avoir de pesticides tellement elle en est gorgée.
Alors c'est ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, quand on commence à rentrer un peu à travailler dans le dur dans ces dossiers-là, on tombe sur un rapport interministériel de fin octobre 2011 sur un plan d'évaluation, enfin une évaluation des plans d'action chlordécone. Ouais. Et là, ces inspecteurs de l'environnement, de la santé, concluent leur rapport. Alors c'est vraiment un état des lieux des pollutions en Guadeloupe. Et leur conclusion, c'est que compte tenu de cet état de pollution généralisé sur la Guadeloupe, ils concluent la Guadeloupe maintenant doit, qu'il est indispensable de développer une agriculture sans pesticides.
Ouais. On a ces petites bananes là que nous avons sous les yeux. Ce qui est très bien en fait avec le bananier, c'est qu'il produit pratiquement toute l'année. Donc ça c'est bon pour le producteur, c'est bon pour tout le monde.
Oui, chaque bananier va produire une fois par an, mais il n'y a pas vraiment de saison, et suivant les parcelles, ils pourront avoir des bananes un peu toute l'année. Alors c'est aussi justement, les colibris aussi fréquentent beaucoup les fleurs, qui sont très riches en nectar. Et puis aussi c'est des milieux intéressants pour les anolies. Tiens, tu as là l'anolie de Guadeloupe, qui est endémique de la Guadeloupe, parce que les anolies en Guadeloupe sont endémiques. Les anolies, c'est des petits lézards verts, trop jolis.
Ah, il est top celui-là.
Voilà, et figure-toi qu'en Guadeloupe, on a plusieurs espèces endémiques d'anolies. On a des espèces que tu vas retrouver sur qu'un seul îlet. Par exemple, tu as l'îlet Kawan, dans le nord de la Guadeloupe, qui a son anolie endémique.
Alors, j'essaie de le prendre en photo en même temps. Tu bouges pas, mon petit anolie, parce que...
Et il sort son fanon.
Il sort son...
Parce qu'il veut défendre son territoire.
D'accord, mais t'inquiète pas, on va pas te...
Alors ça, c'est des petites bêtes que tu voyais pas avant, à l'époque des chlordécones et compagnie, quand il y avait beaucoup d'insecticides utilisés en bananeraie. C'est des animaux que tu voyais plus. Tu voyais pas de grenouilles non plus. Les grenouilles, les anolies et tout, ils sont très sensibles aux pesticides. Les grenouilles, par leur respiration cutanée, qui laissent un peu tout passer et qui les rend très vulnérables. On en avait quasiment plus il y a une vingtaine d'années en bananeraie. Et là, c'est vrai que le fait qu'ils aient complètement arrêté quasiment l'usage des insecticides, on observe un retour des anolies et des grenouilles. Parce qu'en plus, les bananeraies, c'est très intéressant. Parce que bon, tu es quand même sous une espèce de canopée, d'accord ? Et puis, ça garde l'eau pas mal. Et les grenouilles adorent. Hein. Nos petites îlots de... Les ouais. polyphonies.
Oui, délicieuses de la nuit.
Des nuits antillaises. Adorent cette quantité d'eau là qui est maintenue dans les feuilles de bananeraies.
On va laisser notre anolie de Guadeloupe, qui est très bien, mais oui, il continue à... Et alors, il a une vue sur une île superbe, là, dites donc.
Marie-Galante.
Pas mal.
Ouais. Et c'est vraiment ce caractère archipélagique de la Guadeloupe qui fait qu'on a un endémisme, un taux d'endémisme aussi fort chez les animaux. Mmh. Pour les reptiles, il est vraiment exceptionnel.
Sans cesse limité, mais le plus souvent on est divisé. L'amour est presque futilité, la violence devenue banalité. La jalousie est une maladie qui petit à petit nous détruit. Hey, nous pousse à faire du mal à autrui, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Hey, hey.
Fin de notre virée guadeloupéenne. Merci à ses habitants, ses auditeurs du matin pour leur accueil. D'autres reportages sur la Guadeloupe plus tard. Grand merci aux femmes du Terra Festival, Martine Sornet, Christiane Thirion, Isabelle Séguin, Scarlett Jésus, Muriel Deriveri et toute l'équipe du Terra Festival. La semaine prochaine, ce sera la journaliste Naomi Klein et Jean-Michel Bertrand, un cinéaste qui parle à l'oreille des loups. Jetez un œil sur le site, il devrait y avoir quand même quelques photos. Stéphane Combe, Christophe Imbert à la réalisation et Denis Chessou, nous vous souhaitons un excellent week-end.